Vous écoutez On lit pour vous.
Des minorités maltraitées. Un éditorial de Réjean Grenier paru le 15 mai 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. Voici deux sujets qui touchent des groupes minoritaires et pour lesquels le gouvernement fédéral doit agir. Il y a d'abord les survivants autochtones de l'école résidentielle Sainte-Anne dans le nord de l'Ontario qui réclament des documents que le fédéral continue de cacher. Il y a ensuite le récent rapport du commissaire aux langues officielles qui dénote que, 55 ans après l'adoption de la loi sur les langues officielles, la fonction publique fédérale est toujours réticente au bilinguisme. Deux sujets qui reviennent souvent dans l'actualité mais que le gouvernement semble incapable de régler. C'est soit de la mauvaise foi, soit de l'incompétence. La journaliste du Globe and Mail, Tania Talaga, racontait récemment l'histoire du Dr Edmund Metatawabin, un ex-chef de la Première Nation de Fort Albany et membre de l'Ordre du Canada, qui a dû se rendre à Ottawa pour encore essayer d'obtenir des documents sur l'école Sainte-Anne. Dr Metatawabin a passé 8 ans dans cette école. Le fédéral a déjà admis que les jeunes envoyés à Sainte-Anne ont subi des actes de maltraitance et certains sont admissibles à une compensation. 8 ex-employés de l'école ont d'ailleurs été trouvés coupables de différents actes de violence envers les enfants. L'avocate du groupe de survivants a découvert que les avocats du gouvernement ont déterré des milliers de documents relatifs à cette école. Les survivants, la plupart d'un âge avancé, veulent y avoir accès. Ne serait-ce que pour confirmer leur dire. Ottawa refuse. La position de ces avocats est inacceptable. Non seulement les victimes d'abus doivent-elles pouvoir consulter ces documents, tous les Canadiens doivent aussi y avoir droit. Ce n'est qu'en regardant la vérité en face qu'on peut parler de réconciliation. La deuxième question qui retient notre attention est celle du bilinguisme de la fonction publique. Selon le commissaire Raymond Théberge, certaines institutions fédérales ne se plient pas aux exigences de la loi. Surtout en ce qui a trait aux droits des employés du fédéral de travailler dans la langue de leur choix, mais aussi aux droits des citoyens de recevoir des services dans les deux langues. Disons que ce n'est pas une grande nouvelle. On entend ça depuis plus de 50 ans. Mais disons aussi qu'après 50 ans, il serait temps que les fonctionnaires unilingues anglophones « get with the program ». La loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969. Il est donc clair que tous les employés de la fonction publique ont été embauchés depuis que cette loi est en vigueur. Ils savent, depuis leur tout premier jour, en tant que fonctionnaires, qu'il serait bon d'apprendre à baragouiner ou du moins à comprendre quelques mots en français. Certains fonctionnaires anglophones ont compris la nouvelle nature du Canada et ont fait l'effort d'apprendre le français. Ce n'est pas facile et on doit les féliciter. Pour les autres, on ne peut que leur dire « Respectez le droit de vos collègues francophones à écrire leur rapport en français et à parler leur langue au travail. Si vous ne comprenez pas et que vous vous sentez parfois laissé pour compte, tant pis. « Changer de job », c'était « Des minorités maltraitées », un éditorial de Réjean Grenier, paru le 15 mai 2024 dans « Le Voyageur » de Sudbury.
Une centaine d'années de bal molle au parc Jeanne-Mance. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 17 juillet 2024 dans « Le Devoir ». Petit ou grand, les parcs urbains font encore plus partie de notre quotidien l'été. Mais qu'est-ce qui fait leur âme, lequel occupe une place particulière dans notre cœur et notre routine? Il y a des lieux qui s'imposent par leur beauté ou par leur histoire, et d'autres qui sont forgés par l'usage qu'on en fait. Depuis au moins une centaine d'années, une communauté tissée serrée joue à la balle molle au parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal. Au point où plusieurs de ses membres ne peuvent s'imaginer jouer ailleurs à Montréal. Le parc est ainsi devenu indissociable des parties de pick-up softball qui y sont disputées depuis des décennies. De la même manière qu'il est devenu impensable de faire exister ces matchs à l'extérieur du parc Jeanne-Mance. On a ce sentiment que c'est à nous, cet espace-là, le terrain de balle molle, en raison de notre usage prolongé à travers le temps et aussi parce qu'on s'est battu à plusieurs reprises pour préserver le lieu, explique François Lamoureux, qui s'adonne à ce sport au parc Jeanne-Mance depuis 2011. Déjà dans les années 1920, des photos aériennes montrent la présence de terrains de baseball dans le parc et dans le roman « Joshua Dan and Now » de Mordecai Richler, publié en 1980, le personnage principal, lorsque pourchassé par la police, se réfugie au Fletcher's Field, qui deviendra le parc Jeanne-Mance, où se tient une pick-up softball game. C'est le seul témoignage explicite qu'il y ait du pick-up à cette époque dans le parc Jeanne-Mance, souligne François, 33 ans, doctorant en histoire. Une preuve néanmoins que les parties de balle molle improvisées font partie de l'usage historique du parc, ajoute-t-il. Le parc Jeanne-Mance serait d'ailleurs le seul endroit à Montréal où se joue ce type de partie qui se déroule à l'image des matchs de hockey disputés sur les patinoires extérieures en hiver. Des joueurs se présentent spontanément sur place et forment des équipes éphémères, le temps d'un match ou deux. Un mélange de cultures. David Smith, lui, a commencé à participer à ces parties au milieu des années 1980. Ça a toujours été un lieu où toutes les cultures, toutes les professions et tous les styles de vie se sont retrouvés, dit l'homme de 76 ans à la chevelure grisonnante qui a accroché son gant en 2023. Il ne me laisse plus jouer. De tout temps, les communautés francophones et anglophones se sont côtoyées autour de ce marbre planté au cœur de Montréal. Il y a environ 25 ans, on a commencé à avoir beaucoup de Latinos qui se sont joints à nous. Ça a beaucoup élevé le niveau de jeu. Le calibre était en fait devenu si fort qu'il a créé une barrière à l'intégration de nouveaux joueurs intimidés par ce qui se déroulait devant leurs yeux. En 2005, pour faciliter l'arrivée de recrues, des joueurs ont décidé de créer une ligue organisée parallèle, elle aussi sise dans le parc Jeanne-Mance, avec des équipes fixes et un horaire régulier. Une sorte de tremplin qui a permis à de nombreux joueurs d'intégrer par la suite les légendaires parties de pick-up softball. Les parties de la ligue, dont certaines sont réservées exclusivement aux femmes, sont disputées les soirs de semaine, tandis que les parties improvisées font vibrer le parc à partir de 13 heures les samedis, les dimanches et les jours fériés. La communauté de balle molle du parc Jeanne-Mance compte aujourd'hui quelque 300 passionnés, dont une cinquantaine se présentent 3 ou 4 fois par semaine au parc pour s'élancer sur le terrain ou commenter les parties depuis les estrades. C'est le cas de Daniel Hulden, une enseignante de 32 ans qui a intégré la Ligue en 2011 à son arrivée à Montréal depuis l'Ontario. « J'y ai rencontré tellement de personnes différentes », lance-t-elle avec reconnaissance. « C'est très spécial ce qu'on a ici. Je ne pense pas que j'habiterais encore à Montréal si je n'avais pas trouvé ce parc. » Même si le français et l'espagnol de cette future maman enceinte de 5 mois sont loin d'être parfaits, ils n'ont jamais représenté un frein pour tisser des liens sur le terrain ou dans les gradins, assure-t-elle. On trouve toujours le moyen de se comprendre. Vous écoutez une centaine d'années de balle molle au parc Jeanne-Mance, un texte de Magdalene Boutros paru le 17 juin 2024 dans Le Devoir. Une communauté. C'est la meilleure activité d'après-travail, ajoute à ses côtés Patrick Moore, un ingénieur informatique de 39 ans qui est devenu commissaire de la Ligue il y a 2 ans aux côtés de François. C'est comme un 5 à 7, mais avec de l'exercice en plus. Lui aussi originaire de l'Ontario, Patrick a commencé à fréquenter le parc Jeanne-Mance en 2009 après qu'un homme rencontré en Corée du Sud lui eut parlé non seulement des matchs de balle molle, mais aussi de la communauté qui s'était formée au pied du Mont-Royal. Car après la dernière balle lancée, les discussions s'étirent parfois autour d'un barbecue ou d'un centre cochot, forgeant des amitiés et faisant naître des couples. On ne compte plus les fois où la communauté s'est levée pour venir en aide à un des siens, comme quand David s'est fait heurter par une voiture et que les joueurs ont passé le chapeau pour permettre à sa fille de prendre congé et de l'aider à la maison, ou encore lorsque Booba est tombé gravement malade et que des tournois de balle molle, des Booba Palooza, ont été organisés pour amasser de l'argent pour la recherche contre le cancer. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on se mobilise pour lui, raconte fièrement Patrick. On est une communauté qui veille les uns sur les autres. Quelques frictions. Malgré ce lien étroit avec le parc, les relations avec la ville de Montréal sont parfois complexes. Contrairement aux terrains de tennis et de soccer du parc, celui de Balmol n'est pas éclairé la nuit, ce qui réduit le nombre de parties pouvant être jouées. Et le terrain est utilisé par des propriétaires de chiens, ce qui cause des frictions, notamment en raison des trous que les chiens aiment creuser. Mais surtout, malgré les protestations, l'administration Plante a décidé en 2018 de fermer le mythique terrain de balle molle situé près de l'avenue du Mont-Royal, où se jouaient depuis des décennies les parties de pick-up. L'absence de clôture rendait l'endroit dangereux à arguer la ville. Le deuxième terrain, lui situé plus près de la rue Marianne, est demeuré en fonction et il accueille désormais les parties de pick-up en plus des matchs de la Ligue. Il y avait une espèce d'essence et d'âme dans l'autre espace qui ont été perdus, se désole François, au point où plusieurs joueurs outrés et attristés ont refusé pendant un moment de jouer sur le terrain près de la rue Marianne. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui très protecteur de notre espace. On a compris qu'on ne peut rien tenir pour acquis. Aux yeux de plusieurs, ce lien fort, viscéral même, entre le parc Jeanne-Mance et les parties de softball en fait deux éléments d'un même tout. Si les parties disparaissaient du parc, je ne pense pas qu'elles survivraient ailleurs, résume François. L'histoire du parc Jeanne-Mance. L'histoire du parc Jeanne-Mance est étroitement liée à celle du parc du Mont-Royal. Comme bien des parcs montréalais, leur aménagement prend de l'importance dans la deuxième moitié du 19e siècle, raconte Claude Marois, professeur retraité du département de géographie de l'Université de Montréal. À la fin du 19e siècle, on y trouvait la ferme Fletcher, qui comprenait une piste de course pour chevaux et une salle d'exposition. C'était surtout les anglophones qui s'étaient appropriés le versant est du Mont-Royal, souligne le professeur. En 1883, l'avenue du parc est aménagée, ce qui entraîne une diversification de la clientèle. Une population de plus en plus multiethnique devient alors un acteur important du parc. Puis, progressivement, la pratique de sports comme le soccer et le tennis prend de l'importance. Et une nouvelle activité s'y installe, faire des pique-niques. Ce n'est qu'en 1990 que le parc prend officiellement le nom de Jeanne-Mance, cofondatrice de Montréal. Aujourd'hui encore, cet espace vert est un endroit de détente où il fait bon se retrouver entre amis et un haut lieu de la pratique de sport extérieur pour bien des Montréalais. C'était une centaine d'années de balle molle au parc Jeanne-Mance. Un texte de Magdalene Boutros paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir.
Plus de prématurés avec les vagues de chaleur, un texte de Mathieu Perrault paru le 30 juin 2024 dans La Presse. Les vagues de chaleur, augmente légèrement le taux de naissance prématurée, selon une nouvelle étude américaine. C'est la première fois que cet effet peut être prouvé. Nous avons été surpris de constater cet effet sur le risque de naissance prématurée, explique l'auteur principal de l'étude, publiée en mai, dans la revue JAMA Network Open, Lindsay Darrow, de l'Université du Nevada. Nous pensions que l'omniprésence de la climatisation rendrait le risque minuscule. L'effet est faible, 2%, mais comme toutes les femmes enceintes sont touchées, ça demeure important sur le plan populationnel. Et les milieux défavorisés sont 2 fois plus touchés. L'étude a analysé 53 millions de naissances entre 1993 et 2017 dans 50 métropoles américaines, ce qui représente plus de la moitié des naissances dans le pays durant cette période. Le risque de naissance prématurée était analysé en fonction des vagues de chaleur dans la semaine précédant la naissance. Une vague de chaleur était définie comme 4 jours au-dessus du 97,5e percentile des températures normales. Dans cette étude, les femmes issues de minorités ethniques, ainsi que des femmes qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires, 2 groupes surreprésentés dans les milieux défavorisés, couraient un risque plus important de donner naissance prématurément. Les naissances prématurées, avant 37 semaines, sont liées à une augmentation des complications. Les parturientes et les bébés ont 9 fois plus de risques d'hospitalisation aux soins intensifs lors des naissances prématurées, selon une étude de 2020 de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. L'épidémiologiste de Reno voulait, par ce travail, mettre un terme à un débat qui avait cours depuis plus d'une décennie. Quand on a commencé à parler davantage des vagues de chaleur plus fréquentes avec les changements climatiques, on s'est demandé quel serait l'impact du phénomène sur les femmes enceintes qui sont plus sensibles aux facteurs de stress, dit Mme Darrow. Mais jusqu'à maintenant, seules 2 grandes études avaient tenté de répondre à la question et elles ne donnaient pas de réponse définitive. Avec plus de 50 millions de naissances, nous voulions tirer la chose au clair. Étude québécoise. Une étude québécoise publiée en 2014 dans la revue Epidemiology sur 220 000 naissances à Montréal entre 1981 et 2010 n'avait trouvé en effet que, sur les naissances avant terme à 37 et 38 semaines de grossesse, mais pas pour les naissances prématurées. Et une étude américaine publiée en 2017 dans la revue Environmental Health Perspectives sur 200 000 naissances avait identifié un risque accru, 11%, de naissances prématurées en tenant compte seulement des vagues de chaleur durant le premier trimestre de grossesse. Cette restriction risquait cependant de fausser l'analyse puisque les femmes n'habitaient pas nécessairement dans la ville d'accouchement au début de la grossesse. Cette étude de 2017 décrivait par ailleurs un effet encore plus important des vagues de froid durant le premier trimestre. Audrey Smargiassi, co-autrice de l'étude québécoise de 2014, estime que l'étude américaine confirme que le risque posé par la chaleur pour les femmes enceintes est faible, mais bien réel. Il vaut peut-être la peine de viser les populations vulnérables, notamment les personnes qui n'ont pas de climatisation, dit l'épidémiologiste de l'Université de Montréal. Madame Darrow veut justement poursuivre son travail avec des données plus fines de certains États. On voit qu'il y a un effet et qu'il est plus important pour les milieux potentiellement défavorisés. Il faut maintenant voir l'impact pour les femmes qui ont déjà un risque plus élevé de prématurité dans leur grossesse, à cause de stress de vie en général, de la pauvreté, d'un travail difficile, ou alors des risques génétiques. Il n'y a pas assez de précision dans les données fédérales, notamment pour ce qui est de la présence de climatisation dans les domiciles. Mais en travaillant avec des données de certains États, comme la Californie, on va peut-être pouvoir détecter cet effet. Si l'augmentation de risque est plus grande, on n'aura pas besoin de millions de naissances pour l'observer. Métabolisme. L'autre avenue de recherche est de mieux comprendre quels facteurs biologiques sont en cause dans l'augmentation de la prématurité avec les vagues de chaleur, dit Mme Darrow. Il y a plusieurs facteurs possibles, mais il faut mieux les comprendre, dit-elle. La déshydratation peut réduire l'apport sanguin au placenta, ce qui pourrait créer des contractions, et influencer la production d'hormones favorisant le travail, menant à l'accouchement. Les mécanismes métaboliques, protégeant les cellules contre une chaleur excessive, augmentent l'inflammation, aussi liée au début du travail. Les membranes peuvent être affaiblies et se rompre sous l'effet de la chaleur. Finalement, un coup de chaleur peut exacerber des maladies de grossesse comme l'hypertension et affecter directement la santé du fœtus. Il y a un élément de stress, certainement, affirme Nathalie Auger, elle aussi épidémiologiste de l'Université de Montréal et co-autrice de l'étude de 2014. C'est assez physiquement difficile d'être enceinte à 35 semaines, même 32, tout stress additionnel est en surplus. Madame Auger, c'est un type de protéine produite quand le corps humain vit un coup de chaleur. Heat shock proteins. La production de ces protéines, découverte en laboratoire dans les années 1960 chez la mouche drosophile, est associée à une diminution de l'énergie disponible pour d'autres activités du corps humain, selon une étude de biologistes de l'Université de Californie à San Francisco, publié en 2019 dans la revue Physiology. En savoir plus, source, JAMA Network Open, plus 2% augmentation du risque de naissance prématurée lors des vagues de chaleur, moins 50% diminution de la mortalité liée à la prématurité dans les pays riches entre 1990 et 2019. Source, INSPQ. 5,6% proportion de prématurité dans les naissances au Québec en 1981. 7% proportion de prématurité dans les naissances au Québec en 2017. C'était « Plus de prématurés avec les vagues de chaleur », un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 juin 2024 dans la presse.
Les hausses du salaire minimum ont peu d'effet sur l'inflation. Un texte de Hugo Jonca, paru le 22 juin 2024 dans la presse. Mario Lamana, un lecteur, demande « J'aimerais savoir, si ce n'est qu'une impression, mais le fait d'augmenter le salaire minimum ne semble pas être une solution si efficace que cela. Les prix des denrées et des services augmentent en conséquence, alors quel est le gain réel? En général, oui. Les hausses des salaires ont un effet sur l'inflation. La plupart des économistes évoquent une répercussion complexe et à double sens. La hausse des salaires en général fait augmenter les prix, qui font à leur tour monter les salaires quand les employés négocient de meilleures conditions pour faire face à l'inflation. Mais la hausse du salaire minimum ne concerne que la rémunération d'une très petite fraction de l'ensemble des salariés, note Pierre Fortin, professeur émérite au département des sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal et grand spécialiste de la question. La hausse du salaire minimum ne peut donc avoir qu'une influence microscopique sur l'indice des prix à la consommation. En 2023, l'Institut de la statistique du Québec dénombrait 177 000 emplois au salaire minimum, soit seulement 4 % de la main-d'œuvre salariée dans la province. Par définition, les travailleurs au salaire minimum ont aussi un pouvoir d'achat plus faible que les autres citoyens, puisqu'ils sont les plus bas salariés de la société. L'incidence de leur salaire sur la hausse des prix est donc d'autant plus marginale. Peu de chance qu'ils fassent augmenter le prix des voitures neuves, des habitations pour propriétaires occupants, des billets d'avion ou des aliments de luxe, par exemple. Des hausses efficaces. C'est aussi ce qui rend la hausse du salaire minimum particulièrement pertinente pour améliorer leurs conditions, puisque l'augmentation de leurs revenus ne vient pas elle-même faire grimper le prix de ce qu'ils consomment. Au net, une hausse du salaire minimum fait augmenter considérablement le pouvoir d'achat réel des salaires faibles, note Pierre Fortin, qui s'est consacré à la question dans ses recherches. À l'inverse, les hausses de salaire touchant les fonctionnaires, les travailleurs de la santé, de la construction ou de l'éducation, très nombreux dans la société, ont une incidence plus importante sur l'inflation. Des hausses plus rapides que l'inflation. En général, Québec a d'ailleurs augmenté le salaire minimum plus vite que l'indice des prix à la consommation, IPC, 18 années sur 25 depuis l'an 2000, notent les chercheurs Suzy Cinq-Cerny et Luc Godbout de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Dans leur dernière étude en avril 2024, ils notent que le salaire minimum a augmenté de 26 % alors que l'IPC a cru de 20 % durant cette période. À chaque hausse, des organismes comme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et le Conseil du patronat du Québec soulignent l'effet qu'elle aura sur les prix des produits et services que vendent les PME. Cet effet est réel, reconnaît Pierre Fortin. Mais l'inflation est calculée sur l'ensemble de l'économie. Ça représente une très faible fraction de l'ensemble de tous les prix. Étant donné ces bienfaits sur le pouvoir d'achat des plus vulnérables de la société, on veut avoir un salaire minimum aussi élevé que possible, mais pas au point de répandre le chômage parmi les travailleurs au bas de l'échelle, signale Pierre Fortin. Selon lui, c'est donc le critère qui doit guider la politique du gouvernement en la matière, ne pas empirer la situation des pauvres en décourageant les employeurs de les embaucher. C'était « Les hausses du salaire minimum ont peu d'effet sur l'inflation », un texte de Hugo Jonca, paru le 22 juin 2024 dans La Presse.